Nous allons pouvoir reprendre. Le souci, bien sûr, qui a été celui du collectif qui a organisé ces deux journées, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas question que de recherche en sciences dures et que les sciences humaines et sociales aient leur place. Et donc, je suis très heureux d'introduire maintenant Vinciane Pirenne-Delforge, pardon, j'ai couru là parce que j'étais en retard, et qui donc est au Collège de France depuis 2017 maintenant. J'ai toujours été frappé par, depuis qu'elle est parmi nous, par son désir de dialogue, et plusieurs fois, elle a introduit dans des colloques des duos, et cette fois-ci, donc, elle a convié pour ce dialogue Francis Prou, qui est professeur à l'Université de Paris 1, un autre lieu que j'aime bien puisque j'en viens, donc tous les deux vont essayer de répondre à cette question innovation et sciences humaines. De quoi parle-t-on ? C'est à vous.
Merci beaucoup Dominique. Bien, nous allons donc changer d'univers, enfin, partiellement. Et nous commencerons cette présentation par la référence à une manifestation qui a eu lieu au mois de mai dernier à Lille et qui était la troisième édition du Salon Professionnel Innovative SHS, créé par le CNRS en 2013. Alors, en français, Innovatives SHS devient salon, non pas de l'innovation, comme vous le voyez à l'écran, mais de la valorisation en sciences humaines et sociales. Alors, le glissement de l'innovation à la valorisation est loin d'être anodin, et il forme en fait le cœur du propos que nous avons souhaité aborder dans le cadre de ce colloque de rentrée sur recherche et innovation qu'est l'avenir. Alors, je précise que Francis et moi sommes tous deux historiens de formation, avec un parcours de recherche et d'enseignement dans le domaine des sciences de l'Antiquité, et tout particulièrement l'Antiquité grecque. Donc, je vous avais dit qu'on allait un peu changer de monde. En outre, et c'est pourquoi le tandem s'imposait, outre mon goût pour le dialogue et l'interaction, ce qui imposait le tandem de mon point de vue, c'est le fait que Francis Prou est chargé de mission au ministère de la Recherche et de l'Innovation depuis 4 ans, et il est dès lors confronté quotidiennement à la question de la place des sciences de l'Antiquité, des humanités au sens large, dans le concert des grandeurs et des misères qu'un ministère de ce type rencontre dans le soutien à la recherche française en SHS. Et je reviens un instant au salon Innovatives SHS et aux attendus de l'appel à projet qui a été lancé en juin 2018, donc pour cette manifestation en mai 2019. L'événement avait pour mission, je reprends les éléments qui étaient présentés sur le site, de promouvoir les activités de valorisation et de transfert des recherches en SHS, d'illustrer la capacité des équipes de recherche à transférer les résultats de leur recherche vers les groupes industriels, les PME et PMI, les collectivités locales et le monde associatif, de témoigner, je cite toujours, de l'extrême diversité des savoir-faire des unités SHS en matière de valorisation, outils logiciels ou multimédia, innovation de transfert, de rupture, ou d'usage et de connaissances, et enfin d'accompagner l'évolution de la recherche qui encourage les équipes SHS à mieux afficher leurs activités de valorisation. L'édition 2019 de ce salon entendait aussi valoriser l'expression des innovations, c'est comme ça que c'était libellé, débats interactifs sur le principe du speed dating. Elle invitait les équipes retenues à construire leurs argumentaires pour une interaction directe avec le public cible qu'elles auraient elles-mêmes invité. Bon, inutile de se perdre dans les abîmes d'une longue réflexion pour prendre la mesure du fossé qui sépare ces intentions, aussi louables soient-elles, des ambitions de la recherche en sciences de l'Antiquité, en particulier, c'est notre domaine, et plus généralement, celle des disciplines dites des humanités, une appellation que nous assumons et qu'il nous faut tout d'abord circonscrire au sein des SHS. Nous en viendrons ensuite à la question de l'innovation en différentes étapes. Voilà le plan de notre intervention commune. Alors, les termes abrégés par le sigle SHS, sciences humaines et sociales, ces termes, donc, sont un label englobant un système, un écosystème varié de traditions de recherche depuis que le 19e siècle et le début du 20e en ont dessiné les cadres académiques spécifiques. Le choix de la coordination entre sciences humaines et sociales, sciences sociales, est déjà un indice de cette variété. Que l'on s'entende néanmoins, d'emblée, nous n'avons aucune intention, Francis et moi, de mettre en scène une énième version de la querelle des anciens et des modernes, ni au sein des SHS, ni entre les SHS et les autres domaines des sciences. De notre point de vue de chercheurs du XXIe siècle, une telle querelle n'a pas lieu d'être au sein de la recherche. Les sciences humaines et sociales s'attachent toutes à penser l'humain dans ses actions, ses créations, ses pensées, en contexte et sur la longue durée. Elles déploient pour ce faire des méthodes d'investigation variées, dont une communauté de pairs assume la légitimité spécifique. Les SHS s'inscrivent à ce titre dans le vaste concert de la recherche dont la communauté scientifique tout entière assume la légitimité globale. Nous avons la faiblesse de considérer que ce point est acquis et partagé, du moins sur le plan des principes. Le fonctionnement même du Collège de France atteste ce partage. Mais il s'agit d'une institution exceptionnelle à bien des égards, et nous ne sommes pas complètement naïfs. Nous devons néanmoins d'emblée limiter les ambitions de notre titre, pour des raisons de temps. C'est effectivement un scénario habituel dans ce genre d'exercice, donc tiraillé entre les prétentions de départ et le temps imparti, et nous allons essentiellement évoquer aujourd'hui le domaine particulier des humanités, dont nous venons de préciser que nous en assumions l'appellation. Précisons donc toutefois ce que nous entendons par là, même si le terme pourrait sans doute recevoir différentes définitions, fondées sur des délimitations ancrées dans des traditions académiques et intellectuelles variées. Alors, en dépit de leur nom, les humanités ne peuvent réclamer l'exclusivité de l'étude de l'homme. Leur spécificité, quand on tente de la définir, tient tout d'abord à l'ensemble des savoirs qu'elle mobilise et qui repose sur une accumulation de connaissances effectuées au cours du temps. C'est ce que l'on appelle l'érudition, même si le terme a parfois mauvaise presse aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nombre de disciplines des humanités mobilisent quantité de sources très diverses, requérant nombre d'instruments pour les saisir dans toute la complexité de leur expression, de leur support et des contextes de leur production. Et plus on remonte le temps, plus la palette doit s'élargir, compte tenu de la rareté des sources selon leur genre. On est donc contraint d'en maîtriser de tout type. En bref, le chemin de la formation est long avant de pouvoir envisager d'écrire quelque chose de pertinent sur les mondes anciens en posant des questions productives au matériel ainsi compris dans sa littéralité et inséré dans un contexte particulier. En outre, et c'est une autre spécificité, la connaissance acquise par les humanités est cumulative. Même si, on va y venir, des paradigmes interprétatifs peuvent montrer leurs limites, voire leurs erreurs de perspective, au fil du temps, la production des socles documentaires sur lesquels ils s'appuient ne vieillissent pas de la même façon et peuvent conserver toute leur pertinence à travers le temps. Contrairement à maint domaine des sciences, où la consultation des publications au-delà des 30 dernières années relève de l'histoire de la discipline, ce n'est pas le cas dans le domaine des humanités. Enfin, si les humanités ont, comme toute autre science, l'objectif de fournir des réponses à des questionnements variés, une de leurs particularités est de réfléchir à la manière dont ces réponses ont été construites, voire à l'élaboration des questionnements eux-mêmes. La réflexivité, dont Pierre-Michel Menger vient de nous parler d'un autre point de vue, la réflexivité fait partie intégrante des démarches des humanités. Donc voilà les éléments de définition, si l'on peut dire. Et nous en venons dès lors au deuxième point de notre intervention et à la question qui nous occupe ces journées, à savoir la question de l'innovation.
La juxtaposition des termes innovation et humanité procède à première vue d'un paradoxe. Tout l'humanisme s'est construit sur l'idée de transmission, et bien moins sur celle d'innovation, entendue comme modernité dans le vocabulaire d'un autre temps. Or, dans le contexte des dernières décennies, pour celles et ceux qui jugent d'un peu loin et un peu vite, les humanités sont le vieux monde qui peinerait à transmettre tout ce qu'il pèse et assumer tout ce qu'il coûte. Ne venons-nous pas nous-mêmes de parler des processus cumulatifs de la connaissance qui s'y déploient ? L'idée que l'innovation en SHS, et singulièrement dans les humanités, n'est pas celle des autres sciences, apparaît dans le glissement du vocabulaire que nous avons signalé entre « innovative SHS » et « salon de la valorisation ». Tout se passe comme si l'innovation devait être réservée à des sciences qui ne sont ni humaines, ni sociales, ou si peu, et qu'il fallait trouver un autre mot pour désigner ce qu'il peut y avoir de neuf dans ces sciences sans trop les dévaloriser. Les sciences exactes et techniques génèrent l'innovation quand les SHS produisent au mieux de la valeur, et une capacité variable d'ailleurs à la valoriser, d'où l'aide apportée par le salon de la valorisation. Dans le champ de l'économie de marché, l'innovation est définie en termes de marketing, comme la mise sur le marché d'un nouveau produit. Dans les sciences médicales et exactes, dans le cadre des technologies, l'innovation est l'aboutissement d'une démarche qui commence par une invention, c'est l'aspect proprement technique au sens large du terme, et se termine par l'assimilation sociale de la nouveauté. L'assimilation sociale est justement décisive pour qu'il y ait innovation. Comme un certain nombre de notions qu'instillent dans la recherche les principes du New Public Management, celle d'innovation est d'une manière générale venue de l'économie et de l'entreprise. L'économie classique considère que l'entreprise se situe au cœur de la production de nouveautés et qu'elle possède en grande partie les ressources pour en soutenir la création. Depuis le XIXe siècle, c'est la figure de l'entrepreneur qui est au fondement de cette dynamique, et tout notre XXe siècle a diffusé cet esprit d'innovation dans le dispositif de l'entreprise. Ce dispositif n'est plus seulement attaché à la figure de l'entrepreneur. Il s'inscrit dans des formes organisationnelles au sein desquelles se discute le modèle le plus adapté pour produire un avantage compétitif sur un marché de plus en plus instable. Ce marché est marqué par une concurrence forte, des cycles de vie des produits de plus en plus courts et une course perpétuelle à la création de nouvelles formes de services et de produits pour répondre à la diversité des marchés et créer de nouveaux besoins chez les consommateurs, une forme particulièrement discutable d'assimilation sociale de la nouveauté. Le rapprochement entre laboratoires de recherche et entreprises, la montée des technosciences et la recherche-développement au sein des entreprises a émergé à la fin du XXe siècle, dans les années 1980. L'innovation est devenue le moteur entrepreneurial. Les liens entre université et entreprise se sont modifiés. L'entreprise n'est plus qu'un élément dans la chaîne de production et d'innovation, et ce n'est plus le simple jeu de l'offre et de la demande qui construit l'innovation et la valeur des biens. On passe à une approche beaucoup plus globalisée de l'innovation, où les différents éléments, laboratoires, entreprises, consommateurs, sociétés, sont en interaction créatrice. C'est la société post-industrielle. La réussite d'une entreprise ne se définit pas seulement par sa productivité et sa capacité à baisser les coûts, mais par sa capacité à innover. La démarche projet devient un type d'organisation clé. Sur certains arrière-plans de l'innovation, où science et technique ont un rôle évident à jouer à des titres divers, comment justement se situent les SHS, et plus particulièrement les humanités et les sciences de l'Antiquité, qui sont notre poste d'observation privilégié? Question d'ailleurs qui en appelle immédiatement une deuxième, déjà esquissée il y a un instant par Vinciane. Sommes-nous contraints de résoudre l'apparent paradoxe entre humanisme et innovation, afin de revendiquer, nous aussi, d'être innovants?
Disons-le d'emblée, selon nous, la réponse à cette deuxième question est négative. L'affirmation de la légitimité des humanités dans le concert de la recherche ne passe pas par une rhétorique empruntée à d'autres domaines, et nous devons lutter, nous semble-t-il, contre la standardisation à cet égard. Car l'usage d'un certain type de vocabulaire est loin d'être anecdotique, d'où le titre que nous avons donné à ce point précis de notre présentation. Par exemple, à force de parler de laboratoire, on finit par imposer à l'échelle de l'Europe un certain modèle de financement de la recherche à des domaines dont l'écosystème imposerait des sommes moins importantes, mais mieux réparties, dans un cadre plus stable pour les chercheurs. En conséquence, le vocabulaire n'est jamais neutre. Et l'une de nos missions en tant que chercheurs étudiant les textes et leur contexte de production est assurément d'en dévoiler les pièges. Par exemple, je prends un exemple qu'a évoqué hier à la table ronde mon collègue Philippe Aguillon de façon très positive. L'exemple du European Research Council, dont les différents types de grants sont devenus le Graal de la communauté scientifique européenne, à juste titre, à bien des égards. L'innovation, avec un accent anglais, et la rupture, le breakthrough, sont désormais les maîtres mots de la rhétorique des projets. Ces derniers doivent être ambitieux, challenging, ce qui signifie dans les humanités s'inscrire dans le temps long ou changer d'échelle dans le traitement de la documentation. Le format des délivrables, les outcomes, est passablement standardisé, les sommes allouées sont importantes, afin de mettre sur pied de larges équipes. Le modèle sous-jacent de ce type de financement est celui des sciences expérimentales. Mais la question de savoir si ce modèle est applicable tel quel à d'autres champs disciplinaires n'est jamais véritablement posée. Sans doute les chercheurs et SHS, pour partie en tout cas, n'osent-ils pas vraiment la poser ? De peur de courir le risque de se voir privé de la manne européenne au prétexte que la vraie science passe par les fourches caudines de la standardisation. Sur un tel arrière-plan, les enjeux pour l'avenir de la recherche dans les sciences humaines et sociales sont de taille, et les risques inhérents à une telle standardisation des formats restent jusqu'ici largement impensés dans la communauté scientifique, pour ne rien dire de la précarisation des jeunes chercheurs et SHS que ces gros projets accentuent en multipliant l'offre de contrats temporaires sur plusieurs années dans le cadre d'une recherche qui, au total, n'est pas totalement la leur. Quand le temps est venu pour eux de se stabiliser, c'est la recherche haute couture, si vous me permettez cette métaphore, une recherche haute couture qui est valorisée et non le sur-mesure des projets. Je parle des humanités essentiellement. Et de toute façon, les postes permanents font défaut pour accueillir tous ces jeunes gens qui auront de surcroît bien du mal à valoriser leur parcours ailleurs que dans les milieux académiques et scientifiques. Il s'agit là encore de défis qui restent impensés, puisque l'évaluation des scientifiques en place passe notamment par la production de doctorats et la capacité à lever des fonds dans une logique de recherche sur projet. Les notions d'innovation et de rupture sont assurément des cotes mal taillées pour la recherche dans le domaine des humanités. Comment peut-on dès lors définir l'intérêt de ce domaine dans un monde où ces notions sont devenues des passages obligés ? Et puisque les mots doivent nous servir, nous parlerons plutôt de démarches innovantes, nous démarquant ainsi de l'innovation consistant à mettre un nouveau produit sur le marché. La notion de démarche insiste en effet sur les processus parfois lents qui instillent le changement, et évidemment l'exposé de Serge Haroche nous réjouit au plus profond. C'est un point capital, répétons-le. L'innovation n'est pas à confondre avec l'invention. Si l'on rabat l'innovation sur la seule capacité à la découverte d'une technologie, d'une loi quantifiable, il est clair que la part humanité des SHS, et a fortiori les sciences de l'Antiquité, n'a pas de rôle à jouer sur ce terrain-là. Les humanités ont pour objectif moins de découvrir que de reconstituer, ou plutôt de restituer des mondes évanouis dans toute leur complexité. En outre, comme n'importe quelle autre science, elles ont la capacité de jeter un regard neuf sur leurs objets et de produire un matériau susceptible d'être assimilé socialement, selon la définition de l'innovation que nous avons proposée tout à l'heure. Et ce sera notre quatrième point.
Sur certains arrière-plans, la manière de poser des questions de recherche est fondamentale. En tant qu'historien, notre lecture du passé s'enracine dans le siècle qui nous voit vivre. Et les questions que nous posons y puisent leur substance, leur couleur particulière. Par exemple, les mouvements d'émancipation des femmes et les mouvements de décolonisation ont généré des enquêtes nouvelles sur le passé. Tenter de percevoir la voix des sans-voix, quel qu'il soit, dans notre documentation, est une tâche difficile mais passionnante. Discerner les jeux de pouvoir qui se nichent dans la manière dont se présente cette documentation est tout aussi salutaire, ainsi que les travaux de Michel Foucault l'ont montré ici même. C'est ce que Paul Venn appelait, dans son livre « Comment on écrit l'histoire », l'élargissement du questionnaire. Les questions que nous posons se sont multipliées du fait d'une expérience plus large de la complexité du monde et des ressorts de l'action de l'homme dans ce monde. Sur le plan de la méthode, cette fois, l'interdisciplinarité a fécondé les manières traditionnelles de travailler des chercheurs dans le domaine des humanités par les apports des sciences sociales comme l'anthropologie ou la sociologie, par les apports des sciences dites « dures » dans le traitement de certaines données mises au jour par l'archéologie, et enfin par le développement des humanités dites « numériques ». Je vais prendre un exemple à l'échelle microscopique. Dans le cadre du LABEX Lascar Bordeaux, un programme intitulé « Alien » porté par mon collègue Alain Bouet sur l'hygiène des sociétés du monde grec et romain, fondé sur l'étude combinée des marqueurs parasitaires détectés dans les résidus stercoraux prélevés dans les comblements des systèmes d'évacuation antiques sur le site de Délos, quelques autres cyclades, et puis aussi de l'ichtyofaune marine et du saccicole, pêchée et consommée, telle qu'elle apparaît elle aussi dans le même espace géographique, permet d'apporter non seulement des connaissances positives nouvelles, mais surtout d'orienter durablement les conceptions historiques qui prévalent en matière d'alimentation, d'environnement, de mode de vie sur le mode antique. Pour étudier sur le temps long les rapports écologiques et évolutifs entretenus entre les populations humaines et leur environnement, le projet Alien prend pour base de départ l'île de Délos, qui, par son histoire et la richesse de sa documentation matérielle, apparaît comme un véritable petit laboratoire. Jamais une étude n'avait ainsi embrassé la totalité des données permettant de reconstituer une chaîne alimentaire avec des moyens modernes d'investigation, non seulement sur le site de Délos, mais aussi à l'échelle finalement de la Grèce. Si quelques données matérielles avaient pu être publiées, si certaines synthèses fondées exclusivement sur les données de la tradition manuscrite avaient permis la mise en évidence de perspectives générales, jamais l'étude des données ichtyologiques d'un site antique n'avait servi de fil conducteur thématique pour aborder les questions écologiques telles que l'exploitation des milieux aquatiques par l'homme, la pêche et la relation aux milieux techniques, les habitudes alimentaires, les modes de représentation qui les accompagnent ou encore la place du pêcheur dans la société. Jamais n'avait été proposée une telle exploitation des résidus urinaires et stercoraux, transformés au fil du temps en concrétion, qui peuvent être récoltés par les méthodes archéométriques dans les latrines ou les conduites d'évacuation des espaces domestiques. Elle peut également renseigner sur les conditions de vie et d'environnement des populations ayant produit ces déchets biologiques. Au final, c'est moins l'accroissement des connaissances qui est significatif que les réflexions que ce programme engage par l'étude de parasitoses anciennes. Par la collecte archéologique de l'infiniment petit, il est désormais possible de mesurer les changements au cours du temps par une approche diachronique dans les modes de consommation, notamment halieutiques, l'état sanitaire, la charge parasitaire, les contextes paléo-environnementaux, les relations homme-milieu et leur évolution. Au-delà de la simple enregistrement nosologique, le projet Alien vise à non seulement s'assurer du concours de toutes les autres sources, historiques, archéologiques, épigraphiques, biologiques et paléo-environnementales, mais surtout à jeter un éclairage totalement neuf sur ces activités humaines en termes de migration des populations, d'hygiène, de santé, de pratiques agronomiques, urbanistiques, alimentaires, socio-économiques. La mise en évidence morphologique et moléculaire du parasite n'est pas un simple résultat documentant l'état sanitaire des populations grecques antiques dans les milieux insulaires ou continentaux, mais surtout une donnée permettant de reconstituer la relation homme-environnement, notamment à travers les pratiques alimentaires. Du côté des humanités numériques, de nouveaux outils offrent de remarquables opportunités, que ce soit par la mise à disposition à large échelle de documents qui restaient peu accessibles, par l'enrichissement de la production même de ces documents, que ne permet pas de la même manière une édition livresque, mais aussi, et peut-être surtout, par la manière totalement inédite dont ces outils permettent d'explorer la documentation écrite ou matérielle des cultures anciennes à des échelles qui n'étaient pas accessibles jusqu'ici. Du microscopique, illustré par le projet Alien, on peut passer au macroscopique. Un projet emblématique est mené par l'École polytechnique de Lausanne, sous la direction de Frédéric Kaplan, projet appelé, vous en avez sans doute entendu parler, Venice Time Machine, avec une exploitation approfondie des archives de la ville de Venise, dans le but de reconstituer le développement urbain et social de la cité, tout en fournissant une archive digitale ouverte. L'outil numérique permet en effet de changer totalement d'échelle et d'atteindre des niveaux de connexion entre les types de documentation, les types d'archives, jusque-là inédits. C'est plus de 200 000 manuscrits numérisés, plus de 350 000 peintures et photographies de la Sérénissime intégrées à des bases de données connectées, c'est plus de 80 km de documents administratifs, politiques, notariés, fiscaux, cadastraux, judiciaires, qui ont été traités ensemble. L'idée d'une remontée dans le temps, vieux fantasme littéraire, devient désormais tangible et peut constituer un horizon scientifique à un vaste projet alimenté par une rigoureuse analyse documentaire. Même de très complexes problèmes de traitement sont dépassés aujourd'hui. La plupart des textes sont écrits en latin ou en dialecte vénitien. Il faut déjà les transcrire et les traduire en utilisant des méthodes de reconnaissance optique ou de reconnaissance vocale, puis les indexer afin de pouvoir rechercher les informations qui en auront été extraites. À ce stade, une cohorte d'historiens, d'archivistes, assistés par des logarithmes d'apprentissage automatique, sont à la manœuvre. Jamais mémoire humaine, jamais mémoire mécanique n'avait pu mobiliser une telle échelle de données. C'est la force de la Venice Time Machine, et elle fait revenir à la surface des centaines de milliers de citoyens ordinaires. Elle connecte l'ensemble des informations disponibles, elle donne un avant-goût d'une histoire totale. Les ambitions du projet sont considérables, puisque d'autres time machines de ce type devraient se développer pour d'autres villes européennes. Toute une série de questions reste en suspens, comme notamment celle de la sélection de l'information qui nourrit ce projet. Mais un tel choix est inhérent à n'importe quelle constitution de corpus, mais à l'échelle du big data, les implications sont encore incommensurables. Ces deux exemples ne sont bien sûr que des exemples, et il nous faudrait allonger la liste en puisant dans d'autres domaines. Ils montrent bien en tout cas que les démarches innovantes en SHS passent par l'interdisciplinarité, par la convergence des outils sur des questions de société que l'on s'est toujours posées, mais qui restaient bien souvent sans réponse, et par un changement d'échelle dans la capacité de formuler des hypothèses et d'élaborer des preuves sur un ensemble de questions, somme toute, assez courantes, parce que fondamentales. Mais il convient de donner du sens au traitement massif des données. Les humanités numériques ne mobilisent pas que des dimensions techniques, elles doivent s'inscrire dans des problématiques, les problématiques des disciplines qu'elles servent, et ne peuvent être un objectif en soi.
Comme Francis vient de l'évoquer avec la Venice Time Machine, les changements d'échelle sont parfois assimilés aux innovations en SHS, mais ces changements d'échelle imposent encore plus d'attention à la phase de constitution des corpus, quels qu'ils soient. Si des biais s'introduisent à ce stade, qui ne sont pas identifiés, neutralisés, aucune théorie, aucune perspective fondée sur un traitement quantitatif, aussi intéressante cette théorie soit-elle, n'aboutira à des résultats valides. En l'absence de phase expérimentale de tests qui soit reproductible, comme dans d'autres champs disciplinaires, les humanités restent redevables d'un traitement irréprochable du matériel documentaire mis en œuvre. D'où la nécessité de continuer à soutenir les recherches de fond sur la constitution de cette documentation, que ce soit des éditions de textes ou des fouilles archéologiques suivies de la publication du matériel mis au jour. Ces étapes essentielles de la recherche sont toujours plus difficiles à valoriser dans les collectes de fonds, précisément parce qu'elles ne seraient pas suffisamment innovantes. Mais ce tout à l'innovation est un leurre dramatique dans certains secteurs. L'exemple des bases de données est un autre révélateur des problèmes liés au financement et à l'innovation. En effet, bon nombre de projets aujourd'hui se fondent sur la constitution de ce type d'outils. Mais si ces bases de données, quel qu'en soit l'intérêt, on ne se prononce pas ici sur l'intérêt de l'outil, quel qu'en soit donc l'intérêt, la qualité, le sujet, si elles s'arrêtent d'être nourries à la fin du projet finançant les chercheurs à l'origine de sa constitution et de son enrichissement, l'investissement de départ, parfois important, peut n'être au final qu'un coup dans l'eau. Or, la recherche de financement complémentaire pour un projet déjà engagé est un chemin de croix pour les porteurs de ce type d'initiative. Par ailleurs, la question de l'interopérabilité des bases de données qui travaillent sur des corpus similaires est une question de fond qu'il convient d'affronter de façon systématique. Dans nos domaines de recherche, c'est le cas, cette interopérabilité pour l'épigraphie grecque, où des standards de codage XML ont vu le jour, mais beaucoup reste à faire dans d'autres disciplines. Et toujours à propos des humanités numériques, en juillet dernier s'est tenue à Utrecht l'édition 2019 du Congrès mondial des Digital Humanities. Comme chaque année, des appels à la construction de communautés ont été relayés à cette occasion, de même qu'ont été présentées des réflexions théoriques sur la construction d'outils partagés. Mais à la lecture du programme, qui était pléthorique, il est également clair que les databases se multiplient sans que soit vraiment affrontée la question de leur maintenance. Pensons ici à l'obsolescence technique des solutions utilisées pour les constituer. Et celle de leur enrichissement continu, je reviens à cette question, par le travail des chercheurs qui poursuivent leur mission, pose un problème puisqu'ils sont soumis à l'inexorable couperet, de la fin d'un financement. Ajoutons enfin la question de l'évaluation du travail des chercheurs engagés dans ce type de constitution d'outils numériques. Je prends un exemple qui m'est cher et qui m'est proche, puisque c'est un projet que j'ai initié, que je pilote depuis quelques années et que j'ai continué à piloter ici au collège. Il s'agit de la mise en ligne d'inscriptions grecques touchant à des prescriptions rituelles en matière de sacrifice et de purification. Bon, ça peut paraître assez pointu, mais deux chercheurs post-doc ont contribué à ce projet, dont le délivrable, pour prendre le vocabulaire de ce type de projet, est un site internet dont vous voyez une capture d'écran sur le PowerPoint. Ce travail de plusieurs années n'est d'aucun poids dans leur dossier. Nous avons dès lors décidé de publier en parallèle un ouvrage qui reprendra les 225 inscriptions du site sous forme papier afin de pouvoir faire figurer cet investissement considérable et ce travail de recherche de fond sous la rubrique « Livre » de leur CV. C'est absurde, mais c'est ainsi. L'outil innovant, avec des guillemets, n'est pas reconnu comme tel dans notre système d'évaluation, qui agite pourtant allègrement le vocabulaire de l'innovation. Enfin, et ce sera notre conclusion, n'oublions pas qu'il restera toujours des questions, qu'un changement d'échelle dans le traitement des données ne permettra pas d'affronter mieux que par les voies classiques et assurées d'une érudition maîtrisée, assortie de questionnements sur le passé, inspirés par la complexité du présent, mais dont ceux qui les posent disposent du cadre stable et de longue durée pour les affronter. C'est la question de la recherche fondamentale évoquée par Serge Haroche tout à l'heure. Le paysage de la recherche est bigarré, kaléidoscopique, en SHS comme ailleurs. Prenons soin de cette bigarrure qui, à l'instar des équilibres écologiques du monde, permet de rendre compte de la richesse de notre humanité et de poser un regard critique sur les manières d'en rendre compte. Merci pour votre attention.